Nous allons à la rencontre de ce texte très connu et nous allons d'abord noter que c'est un faux ami. La plupart des chrétiens semblent aimer ce texte. Il faut dire qu'il est un des textes les plus connus des évangiles. Mais mon hypothèse, c'est qu'il est aimé de tout le monde parce que tout le monde croit qu'il est aimé de tout le monde. Cela arrive à des personnes, cela peut bien arriver à des textes. Pourquoi c'est un faux ami, ou plutôt un ami ambigu? Parce qu'il envoie plusieurs messages en même temps et qu'il est compliqué de s'en faire une idée. En cela, c'est un texte qui n'est pas différent de quelqu'un. Il est difficile de se faire une idée de quelqu'un, ou alors nous serions bien présomptueux. En prolongeant, il est aussi difficile finalement, voire inapproprié ou très immodeste, de se faire une idée de Jésus. Déjà, ce texte est appelé béatitude. Ce n'est pas de sa faute, il a été désigné ainsi il y a très longtemps. Mais en français, cela lui donne d'emblée un sens bizarre et suranné. Une béatitude ou des béatitudes, c'est juste la désignation d'un texte qui répète en rythme le mot heureux, de beatus en latin, qui a donné béa en français, qui désigne aujourd'hui l'expression d'un bonheur stupide. Une anaphore, donc, avec le mot heureux, c'est une béatitude. Il y en a d'autres dans la Bible, par exemple dans les psaumes. Le livre des psaumes commence même par une béatitude, ou dans le livre de l'Apocalypse. Pourquoi donc ce texte est-il un faux ami? Ou encore plus précisément, pourquoi a-t-il été l'ami de mouvements plus ou moins recommandables? D'abord parce qu'il semble mettre en valeur la résignation, le consentement à la résignation. Accepte ta souffrance maintenant, car tu seras récompensé plus tard. C'est-à-dire que l'utilisation idéologique de ce texte par la religion a permis de traiter les gens encore pire que des chiens. Car aux chiens, même très fidèles, s'ils ont faim, il est impossible de leur dire « souffre maintenant de ta faim et tu seras nourri plus tard ». Oh certes, vous pourrez ne pas le nourrir, voire le laisser mourir de faim, mais jusqu'à ce que ses forces soient épuisées, il vous persécutera. Ou alors, finalement, peut-être, il s'en ira, il vous quittera. Mais en tous les cas, il ne se résignera pas, ou pas très longtemps. En revanche, les humains peuvent supporter de s'entendre dire « sois heureux maintenant, même si tu souffres, car tu seras récompensé plus tard, après ta mort par exemple, de ta persévérante souffrance. » Ce qui différencie les humains des animaux en général, c'est cette capacité de croire, et souvent n'importe quoi. Mais quand on observe bien le texte, on finit tout de même par s'apercevoir que ce texte, s'il a pu être en fait un prétexte pour asservir les masses crédules, il n'en a pas exactement toutes les fonctionnalités. En témoigne, par exemple, cette promesse que ceux qui sont doux hériteront la terre. La terre, pas le ciel. La terre, c'est-à-dire ici et pas forcément dans très longtemps. On voit aussi que les affamés de justice seront rassasiés. Cela ressemble moins à une promesse qu'à une annonce. Toutes les formules ne sont peut-être donc pas complètement des invitations à la résignation, mais aussi finalement, et plutôt, à la possibilité d'une nouvelle espérance, à un moment précis où il semblerait que tout soit fini. Il y a une certaine dynamique dans ce texte qui s'adresse à nous qui serions, par exemple, des humiliés du souffle. C'est comme cela qu'on peut aussi traduire « pauvres en esprit ». Oui, ça ne veut vraiment pas du tout dire imbécile. André Chouraqui, un traducteur de la Bible que tout le monde cite quand on aborde ce texte, a traduit le Nouveau Testament grec en hébreu et l'a ensuite retraduit en français. Il en arrive donc à traduire « heureux » par la formule « en marche ». Je vous invite, si vous lisez ce texte, à consulter le lien qui est indiqué. Ce qui remet tout en dynamique et permet de prendre l'exact contre-pied de la première hypothèse. On est donc passé ici de la résignation passive, de l'opium du peuple, à une hypothèse qu'on pourrait appeler révolutionnaire, puisque ce sont ceux qui sont gentils persécutés, humiliés, pacifistes, en deuil, bref, tous ceux qui ne sont rien, les stériles, les improductifs, qui vont hériter de tout. Et tout un courant d'interprétation venu des années 70 a fait dire à Jésus exactement le contraire de ce qu'il était censé dire depuis des millénaires. Mais à mon sens, même si la seconde hypothèse semble plus proche du discours de Jésus, qui n'a pas cessé de s'occuper et de réhabiliter les exclus qu'il croisait sur son chemin, il lui manque à cette hypothèse tout de même quelque chose, une logique. Car au fond, on est passé d'un état illusoire, heureux même souffrant, à une injonction à obéir. Ce « en marche », adressé à des gens qui n'en peuvent plus, n'est finalement pas satisfaisant pour la logique de celui ou celle qui a envie d'interpréter et qui ne se contente pas des idées reçues, même si elles sont sympas. Pour creuser mieux, il faudrait peut-être reprendre ce mot « heureux » en français, pas dans le sens « béat », mais dans le sens ancien de coïncidence opportune. « J'ai eu l'heure de te connaître », disait-on. Ça voulait dire « j'ai eu la chance de te connaître ». Heure, heureux, d'une racine qui signifie présage. En gros, je suis heureux quand je fais le point sur ma situation et que je me rends compte que je ne suis pas complètement décalé de ce que je devais faire. Je me suis fait me rendre compte que je suis dans un moment qu'il fallait que je vive et ce serait ça, être heureux. Ensuite, et c'est là que les évangiles et les paroles de Jésus deviennent subtiles, quand on les sort des idées reçues, que fait Jésus? Il invite les gens à qui il prêche à s'imaginer le bonheur vécu dans le moment où ils hériteront la terre. Le bonheur du moment où ils seront consolés. Le bonheur du moment où ils seront rassasiés. Non seulement à se l'imaginer, mais à le ressentir, à le vivre, ici et maintenant. Il invite les gens à traverser le temps, à aller chercher le bonheur futur et à l'installer dans leur vie de maintenant. Ce n'est pas possible, peut-être. C'est en tous les cas ce que Jésus leur demande de faire. Si bien que le bonheur qu'ils ont rapporté n'est pas une illusion vague, n'est pas une croyance, c'est une nouvelle énergie bien réelle. Et cette nouvelle énergie va justement leur permettre de sortir de leurs conditions. Jésus, dans ce message, leur donne à tous ces gens un cours d'espérance concrète. Espérer, ce n'est pas attendre patiemment, un mot qui, encore une fois, vient du latin et signifie souffrir. Ce n'est pas attendre patiemment d'être heureux plus tard. Espérer, c'est impatiemment devenir heureux maintenant. C'est en quelque sorte se réjouir trop vite. C'est en tous les cas se réjouir maintenant. Et cela change tout. Cela fait cesser les pleurs dès maintenant. Et en tous les cas, c'est le seul moyen pour ce peuple de la terre auquel s'adresse Jésus de changer de condition dès maintenant. Jésus ne dit pas « soyez heureux de ce qui va vous arriver », ce qui, au fond, quand on y réfléchit bien, n'a aucun sens. Il dit « vous êtes heureux maintenant, car vous allez y arriver ». Amen.